Ce que j'ai choisi de partager aujourd'hui s'intitule « Un petit enfant tombé du ciel ». On pourrait se dire, nous sommes pourtant le 29 décembre, Noël est passé, pourquoi à nouveau méditer sur cela? Parce que je crois qu'il y a encore à se laisser interpeller pour nos vies sur ce que Dieu a fait il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas juste une histoire pour le passé, c'est une histoire, un modèle pour nous aujourd'hui. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 6 à 14. Pendant que il, Joseph, Marie, était là, à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » D'abord, méditons sur ce début du titre de cette prédication, un petit enfant. Je vois qu'on en a là, un petit enfant. Le terme grec employé dans ce texte est bréphos, qui signifie nourrisson, nouveau-né, petit enfant. Et même dans son sens premier, c'est un enfant à naître, un fœtus, voire un simple embryon. Ici, il s'agit d'un bébé. Un bébé qui est censé être le grand guerrier de l'Éternel, un sauveur, le maître du monde à venir. Sa mission a été annoncée par le père de Jean-Baptiste quelques mois auparavant. Il va sauver tout Israël de ses ennemis. Des prophètes auparavant ont dit « Il va même terrasser Satan et toute la force de l'ennemi, toutes les forces démoniaques qui asservissent l'humanité tout entière. » Dans le nord de la France, où j'ai vécu 14 ans, des personnes qui n'auraient jamais entendu cette histoire diraient « Eh bé, rien que ça !» Je pense que nous, chrétiens, nous avons tendance à nous habituer à cette histoire. Et nous ne nous rendons pas toujours compte de combien il fallait de la foi pour croire à une chose pareille. Qu'un si petit être, une seule personne, allait avoir un impact stratosphérique, allait remporter la plus grande victoire de tous les temps, de tout l'univers. Même quand Jésus a grandi, il était finalement un être inoffensif, doux comme un agneau, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. La question que je me pose, c'est que nous qui sommes aujourd'hui fils et filles du Dieu vivant, nous pourrions aussi penser que nous sommes insignifiants. Quand on a cette image de la petitesse, on peut se dire « c'est insignifiant, sans importance. Quel impact, quelque chose ou quelqu'un de petit peut bien avoir sur le monde. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander quel impact j'ai autour de moi, dans ma vie, dans mon voisinage? Je vous l'ai dit, je ne médite pas ça pour rappeler simplement une histoire du passé, mais pour nous interpeller dans nos vies d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites « je suis trop petite ». Je suis trop petit. Quel impact puis-je bien avoir ? Bien, je crois qu'à chaque fois que nous avons ce doute et que nous nous accoutumons à l'idée que nous ne sommes rien, nous devrions plutôt nous rappeler comment Dieu a vaincu la puissance des ténèbres. Comment est-ce que Dieu a sauvé un nombre incalculable, il nous a dit une foule innombrable, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, en envoyant un petit bébé. En fait, c'est la façon dont Dieu a toujours agi, dont il veut agir aujourd'hui à travers nos vies. Je vais prendre juste deux exemples dans l'Ancien Testament. Moïse, qui est envoyé pour délivrer le peuple de la main de ce chef, de ce tyran, de la plus grande puissance de l'époque, Pharaon. Quelle est la réponse de Moïse ? Non, pas moi. Qui suis-je pour aller parler à Pharaon ? Non, pas moi. J'ai un handicap. Je bégaye. Je ne peux pas. Quelles sont les excuses que nous présentons à Dieu, que nous nous donnons pour considérer que nous ne pouvons pas avoir d'impact là où il nous a placés, sur nos lieux de travail, dans le quartier où nous habitons, dans nos familles? Je pense aussi à Gédéon, à qui Dieu dit « vaillant guerrier ». Et que répond Gédéon ? Je suis de la tribu la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Peut-être qu'il était petit physiquement ou le plus jeune, le petit dernier, comme David, peut-être. Petit, petit, petit. Impossible. L'Éternel a répondu à Gédéon, « Je serai avec toi et tu battras cette grande armée, comme si tu avais affaire à un seul homme. » Moïse et Gédéon, finalement, ont accepté non pas de regarder à eux-mêmes, mais de regarder à Dieu. Et Dieu a été à l'œuvre, fidèle à ce qu'il avait annoncé, parce que Dieu ne donne pas un commandement pour ensuite se défausser. Or, quel commandement Dieu nous a donné ? Quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas pour les autres, c'est pour chacun d'entre nous qui sommes aujourd'hui sur la terre, ses fils et ses filles. À force de méditer ainsi sur ce petit enfant envoyé pour être le victorieux, je me suis dit, mais en fait, c'est la signature de Dieu, la petitesse. Il se fait un honneur de signer en disant, ni par puissance, ni par force. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas ? Mais par mon esprit, dit l'Éternel. Autrement dit, par la prière. Autrement dit, par la douceur. Je pense à une simple conversation ou de simples conversations que j'ai pu avoir en demandant à des frères et sœurs la prière. Et pendant que j'avais de simples conversations avec des personnes qui priaient, et j'avais prié avant et j'ai prié après, j'ai été estomaquée de voir l'impact que ça pouvait avoir. Peut-être que vous vous dites, mais quel effet pourrait avoir cette petite chose, ce petit acte que je vais faire? En parlant à des personnes qui vous sont peut-être hostiles, j'ai vu des personnes transformées dans leur attitude parce qu'il y a eu la prière et on a posé un acte. Et peu importe qu'il soit petit, parce que c'est Dieu qui agit dans le monde invisible. J'ai eu l'occasion aussi de parler quelques minutes avec une personne qui était complètement dévastée, découragée à cause de ce qui venait à lui arriver dans sa vie personnelle. Et cet homme a vu Dieu à l'œuvre. Je sais que Dieu veut plus dans sa vie. Je le sais parce que c'est écrit dans sa parole et parce qu'il nous parle et parce qu'il me l'a dit. Il faut plus que croire, que remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Il faut naître de nouveau. Dieu ne veut pas seulement que, comme on le lit dans l'évangile de Jean, les gens disent « Gloire à Dieu, c'est extraordinaire ce que tu fais !» Comme Nicodème qui va saluer Jésus en disant « Rabbi, nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Quelle est la réponse de Jésus ? Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et il répondra ensuite à Nicodème qui ne comprend pas pourquoi Jésus réagit ainsi à sa salutation. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Voilà ce qui intéresse Dieu. La nouvelle naissance. J'ai vu aussi, alors que j'avais prié pendant plusieurs années pour un jeune, dont j'avais appris qu'il était en prison. Et un jour que je priais, de temps en temps, même si c'est une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, mais à chaque fois que je pensais à lui, prière. Un jour, je tombe sur lui dans la rue. J'ai loupé l'occasion de lui parler du Seigneur. J'ai prié à nouveau, Seigneur, excuse-moi, désolé, donne-moi encore une autre occasion, prière, prier. Ça n'a pas de loupé. Quelques jours après, je le recroise. Et là, je lui ai parlé de Dieu. Il m'a prise à l'écart, loin de ses amis. Et nous avons eu une petite conversation de 20 minutes. 2 ans plus tard, j'ai vu cette personne métamorphosée. Il était résigné. Il ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir dans la vie. Mais si vous êtes dans la prière et si vous agissez selon les caractéristiques du Saint-Esprit, le Seigneur a dit ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Alors, la caractéristique de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la paix, la douceur, des choses qui ont l'air tellement inoffensives. Quel effet ça peut bien avoir? Dieu vous demande d'avoir la foi. Et quand j'ai eu rendez-vous avec ce jeune, 2 ans plus tard, heureusement qu'on avait rendez-vous à tel endroit, tel lieu, à telle heure. Parce que sinon, je ne l'aurais pas reconnu. Il était métamorphosé. La caractéristique du Saint-Esprit, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Est-ce que vous avez encore de l'espérance? Que Dieu peut transformer la vie des gens qui vous entourent. J'ai envie de dire, nous, on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes personnels, dans nos familles aussi. Mais nous sommes bénis. Nous, nous connaissons le Seigneur, nous sommes sauvés. Il y a des gens autour de nous qui sont morts. Jésus dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Et la volonté du Seigneur, c'est qu'il y ait la vie à nouveau. Donc ne nous disons pas « je ne suis rien ». Ce qui s'applique au niveau individuel peut aussi s'appliquer au niveau collectif, pour un groupe de chrétiens, pour une église locale qui aurait un projet pour annoncer l'évangile, pour appliquer ce que Dieu demande, pour mettre en pratique le commandement de l'Éternel. Et s'il commande, c'est qu'il va intervenir, c'est qu'il va opérer lui en personne des changements extraordinaires. L'année dernière, j'avais un projet à cœur et en fait, j'avais justement ce doute. Mais quel effet ça va bien pouvoir avoir sur ce quartier où presque personne ne connaît Jésus-Christ? Et ce doute pesait sur moi. Et en février de l'année dernière, dans un temps de louange avec des frères et sœurs, l'image d'un petit enfant a été projetée sur l'écran. On était en février, ma première réaction, qui n'a pas de sens, était « mais on n'est pas en décembre, mais Noël s'est passé ». J'ai laissé tomber ces réflexions qui n'ont pas de sens. Et j'ai médité pendant ce temps de louange. Si Dieu a remporté la victoire la plus étonnante de tous les temps, de tout l'univers, en envoyant un petit enfant, qui même ayant grandi, était doux et inoffensif, comme un agneau, alors je peux croire que ce projet, à moi qui suis aussi aujourd'hui fille de Dieu sur terre, ce projet aura un impact. C'est comme ça que les doutes ont été balayés. Comment est-ce que vous balayez les doutes? Ou est-ce que vous vous accoutumez à ne pas avoir d'effet? Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés, à être une bénédiction là où il nous a placés. Nous ne sommes pas appelés à être sur terre, revenir sur Dieu, béni, et puis c'est tout. En ayant enfoui les talents que Dieu nous a donnés. Mais nous sommes fils et filles du Dieu vivant, appelés à suivre le modèle que Jésus nous a donné. N'ayons pas peur d'être insignifiants, n'ayons pas peur d'avoir des projets qui seraient tellement petits. Quel impact ça peut bien avoir? La clé, c'est la prière. Donc on peut là éventuellement se poser la question, chacun. Est-ce que je prie pour mes voisins? Est-ce que je prie pour mes collègues? Est-ce que je prie pour mes camarades de promotion? Il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir Dieu à l'œuvre. Il n'y a rien qui donne plus de joie que de voir Dieu à l'œuvre, mais il n'agit pas si nous ne faisons pas appel à lui. Comme du temps de David, qui a été méprisé, qu'on a tenté de décourager en lui disant encore et encore, « Tu n'es qu'un enfant, tu n'es qu'un enfant. » C'est ce que Saül lui a dit, c'est ce que Goliath lui a dit. Quelle a été la réponse de David ? Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, parce que c'est Dieu qui remporte la victoire. J'ai envie de dire, je vois des personnes qui dorment. Quand Jésus reviendra, il nous posera la question. Avez-vous la foi ? Avez-vous la foi? Et si nous avons la foi, nous faisons appel à Dieu dans tout ce que nous faisons, systématiquement, avant, pendant, après. Cela ne sert à rien de poser des actes sans la prière. Mais si nous prions, ou si nous reprenons le flambeau de la prière, il y a des hommes et des femmes de prière ici, mais pour ceux qui peut-être ont un peu oublié, et nous sommes dans l'action, nous sommes à l'œuvre, nous vivons dans nos quartiers, nous travaillons, nous avons des collègues, et on oublie qui nous sommes. Tomber du ciel, c'était la suite de l'intitulé. On pourrait se dire tomber du ciel pour Jésus, ça a une connotation plutôt négative. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est une appellation qui est réservée quand Dieu sanctionne un roi rebelle, orgueilleux, qui a oublié que le pouvoir vient de Dieu. C'est aussi utilisé par rapport à Satan, tomber du ciel. Alors, pourquoi employer cette expression pour Jésus-Christ ? Contrairement à Satan, c'est d'un commun accord avec son Père que Jésus est descendu du ciel sur la terre. Qu'il a connu cette précipitation vertigineuse depuis les cieux très hauts, comme le dit Luc, jusqu'à la terre, précipité. Voilà encore un terme employé plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 14, dans Ézéchiel au chapitre 28, verset 16, par rapport à ces rois orgueilleux, par rapport à Satan. Mais précipitation, c'est aussi un terme météorologique. On entend monsieur, madame Météo dire « Demain, il y aura de fortes précipitations dans telle ou telle région. » Or, dans Ésaïe 55, nous lisons que Dieu déclare « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce passage du livre du prophète Ésaïe décrit merveilleusement la trajectoire que Christ a connue et l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Je ne sais pas si vous est arrivé de regarder la pluie tomber de si haut et de vous dire quelle chute vertigineuse. Ce n'est pas par sanction à son orgueil que Jésus a vécu cela, c'est par obéissance. Il a volontairement accepté de quitter le trône céleste pour prendre notre nature humaine, pour mourir, et même pour mourir sur le bois. Il est passé du trône céleste, de lui qui était fils de Dieu avec toute la gloire de Dieu, comme il le dira, la gloire que j'avais auprès de toi, pour tomber dans une crèche. Le terme grec employé par Luc est le même que Jésus emploiera dans le même évangile de Luc. Ça signifie une mangeoire, comme vous le savez sans doute. Une mangeoire pour animaux. Voilà où Jésus est tombé. Certains diraient, il est tombé bien bas. Mais c'est la clé pour porter du fruit. C'est comme ça que la pluie fonctionne. Tomber du ciel, tomber de nos statuts, tomber de là où voilà, nous croyons que nous avons de la valeur pour porter du fruit, pour aller là où Dieu nous appelle. Et comment est-ce que Jésus a pu accepter d'être autant humilié ? Paul dira, il s'est humilié. Comment est-ce qu'il a eu la force, face aux critiques des religieux, de continuer encore et encore à être une pluie bienfaisante, à être une pluie de bénédiction sur la terre. Je pense que s'il a pu être si humble et persévérer, c'est grâce à ce que le Père était pour lui et grâce à qui il était. Dieu a déclaré « Voici mon Fils bien-aimé » et il nous dit aujourd'hui « Vous êtes mes fils, mes filles bien-aimées. En lui j'ai mis toute mon affection. » Si Jésus a pu être humble, c'est pas parce qu'il pensait qu'il n'était personne, pas parce qu'il pensait qu'il était insignifiant, alors je suis humble. C'est même le contraire. Il était humble parce qu'il savait qui il était et de qui il était le fils. De celui qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Avez-vous expérimenté que Dieu vous a laissé tomber ? Parce qu'il savait qui il était, il pouvait aller, descendre s'il le faut aussi bas que terre. C'était ça sa force, c'était ça son socle, c'était ça sa sécurité. Il n'avait rien à prouver, il n'avait personne à écraser, parce qu'il savait qui il était. Quand on sait qui on est, on n'a rien à prouver. Et on peut, aux yeux du monde, tomber bien bas, comme Moïse depuis le palais de Pharaon dans le désert, comme David de héros national en fuite. Toutes ces personnes-là ont trouvé en Dieu la force pour ensuite germer, pour ensuite apporter la vie. Donc encore une fois, ce n'est pas notre petitesse qui doit avoir un impact dans nos pensées. Nous devons nous souvenir de qui nous sommes les fils et les filles. Et parce que Jésus savait que lui seul, fils de Dieu, pouvait accomplir ce qu'il avait à accomplir, il est allé jusqu'au bout. Est-ce que nous pensons en tant qu'Église, en tant que chrétiens, que d'autres dans ce monde peuvent accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir, amener la vie éternelle, permettre à des personnes de naître de nouveau. Est-ce que d'autres peuvent le faire? Nous devrions sans cesse nous rappeler de qui nous sommes les enfants. Je vous invite à la prière et aussi au témoignage de ce que Dieu a fait dans vos vies aujourd'hui, en espérant que l'année 2020 sera encore ou encore plus l'occasion de voir la gloire de Dieu, parce que vous saurez qui vous êtes. Amen.